Alors, je rappelle que à la fin de Parshat Shemot, Moshe Rabbeinu a très vivement réagi en protestant auprès d'Hachem, en lui demandant pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé, parce que à la suite de mon intervention chez Paro, sur ton ordre, la situation s'est dégradée pour les Bnei Israël. Parce que jusqu'à maintenant, les Bnei Israël recevaient la paille dont ils ont besoin dont ils avaient besoin pour fabriquer les briques. Elle leur était donnée. Maintenant, Paro a dit, si vous avez du temps pour réfléchir, que vous utilisez ce temps pour réfléchir à la liberté, au fait d'aller servir Hachem, etc., c'est inadmissible. Et donc, je vais donner un tour de vis supplémentaire et qui aura pour conséquence que vous n'aurez plus le temps. Et effectivement, ils ont dû mobiliser toute la famille pour aller chercher de la paille un peu partout. Et comme ils étaient déjà à bout de souffle, là, du coup, ils sont absolument incapables de produire le quota de briques qu'ils doivent fabriquer. Il faut dire ici que la société en question était organisée de telle sorte qu'il y avait des responsables juifs qui étaient responsables d'un certain nombre d'esclaves qui devaient produire une certaine quantité de briques. Et ces responsables-là avaient au-dessus d'eux les Égyptiens qui réclamaient effectivement le quota de briques. Donc il y avait des responsables qui étaient entre les Égyptiens et les ouvriers, ceux qui fabriquaient les briques. Et quand le quota de briques n'était pas suffisant, alors les Égyptiens venaient réclamer chez les responsables juifs, ils leur disaient, mais qui est-ce qui travaille pas assez bien, etc., qui est-ce qui fournit pas? Et Chazal ont dit que les responsables en question, ils n'ont jamais voulu dénoncer ceux qui effectivement ne produisaient pas le quota suffisant. Et du coup, ce sont eux, les responsables, qui ont pris les coups. Ils se sont fait battre plutôt que de dénoncer leurs frères. Alors, il y a deux choses qui sont dites à ce sujet. D'une part, on dit que ces gens-là, qui ont donc pris sur eux la responsabilité qui incombait à leurs frères, pour éviter que leurs frères soient maltraités, ils ont pris ça sur eux. Eh bien, ce sont eux qui, finalement, ont été choisis quand Moshe Rabbeinu a dû choisir des représentants, enfin des gens pour l'aider, les fameux 70 là qu'il fallait. Eh bien, ce sont ces gens-là qui ont été choisis et qui ont été, parce qu'ils avaient le sens des responsabilités, ils avaient le sens de la prise en charge des problèmes de leurs frères. Et alors, ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est que Chazal dise que parmi les responsables qui ont accepté de se faire battre à la place de leurs frères, il y en a deux qui sont très connus et qui sont Datan et Aviram. C'est-à-dire ces deux affreux-là qui ont dénoncé Moshe et qui vont faire des problèmes tout au long des pérégrinations des Bnei Israël, ces gens-là ont fait partie de ceux qui se sont sacrifiés et qui ont accepté de se faire battre à la place de leurs frères. Et c'est fort du fait qu'ils avaient accepté de se faire battre pour leurs frères qu'ils ont attaqué Moshe en disant ben, nous, on a fait les choses que tu n'as pas faites. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que ces personnalités-là, ce Nathan et Aviram, sont des gens qui, d'un côté, se sont montrés généreux, responsables, ils ont accepté de se faire battre à la place de leur frère. Et puis, par ailleurs, ce sont eux qui ont dénoncé Manchet, c'est tout ce que vous voulez, quoi.
Non, c'est pour lui qu'il descend pour dénoncer par le.
Oui,
Ça
mais
pour lui qu'il
et
descend
dis
dénoncer.
donc c'est ça, oui. Parce que Moshe, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tué un Égyptien. Et donc, dénoncer Moshe qui a tué un Égyptien, qui pour eux était. Moshe, c'était aussi un prince, faut pas oublier. Moshe, quand il sort de son palais, la Torah dit qu'il veut voir ses frères, mais pour les Hébreux, il ne le connaissait quasiment pas. Il a été élevé pendant 20 ans dans le palais de Paro et les Juifs ne le connaissaient pas. Ils ne vont pas le connaître beaucoup d'ailleurs, puisque immédiatement, à la suite de la dénonciation, Moshe est devenu wanted et il a dû fuir. Et donc il a fui l'Égypte et il a disparu pendant 60 ans. Pendant 60 ans, on n'a pas de traces de lui. La Torah, et quand il arrive, il a 80 ans. Bon, tout ce qu'on sait un peu, c'est qu'il a passé quelque temps chez Yitro, mais c'est tout. C'est tout ce qu'on sait. Ça, c'est écrit dans le texte. C'est dans le Midrash, on dit qu'il a été roi à un moment donné à Houch, un pays limitrophe de l'Égypte, un grand pays. Mais c'est tout. Bien, donc mon cher Rabbeinu a parlé durement, si on ose parler comme ça, à Hachem. Et notre paracha, elle commence par la réponse d'Hachem à Moshe. Vaydaber Elohim El Moshe, c'est Elohim, donc c'est la Midat Hadin qui parle à Moshe. Et puisque c'est la Midat Hadin qui parle, on entend bien tout de suite que Hachem va répondre vertement, enfin, durement à Moshe. Et il lui dit, il commence par dire d'abord, Vayomer Elav, Ani Hachem. Il lui dit d'abord que lui, Hachem dit sur lui-même, Elohim dit de lui-même en quelque sorte, il dit, je suis Hachem. C'est-à-dire, Hachem, c'est le nom divin qui correspond à la tendresse divine, c'est-à-dire au fait de diriger le clan Israël avec tendresse. Donc il lui dit, tu m'accuses de dureté, etc. Mais en vérité, je suis Hachem. C'est-à-dire, on a ici ces problèmes de noms divins. Là, on voit deux noms divins distincts. Mais je vais lire les psukim qui viennent après parce qu'on va en trouver un autre. Vaere el Avraham el Yitzhak vel Yaakov, lequel Shakai. Et je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov avec un troisième nom, quel Shakai. Ushmi Hashem, mais mon nom, Hashem, si vous voulez, avec ce nom-là, le Nodat Ilahem. Je ne me suis jamais manifesté, ils ne m'ont jamais connu comme étant le tétragramme. C'est-à-dire, on a déjà dit plusieurs fois, n'est-ce pas, les noms divins ne sont pas des noms. Ils ne viennent pas nommer. Parce que Hachem n'a pas de nom. C'est un peu paradoxal quand je dis Hachem n'a pas de nom, mais en français ça veut dire le nom n'a pas de nom, mais on s'entend bien. Il n'a pas de nom parce qu'on ne peut rien dire de lui, compris qu'il aurait un nom qui permettrait de dire quelque chose de lui, puisque le nom, ça dirait quelque chose de lui. Il n'en est rien. Hachem n'a, on ne peut rien dire. C'était déjà très connu. Et alors, quelle est la fonction de tous ces noms divins qui apparaissent dans la Torah? Et ailleurs, d'ailleurs aussi. C'est de nous dire que, de nous indiquer, si vous voulez, de quelle manière Akadosh Baruch Hu guide le monde. Il y a des moments où il guide le monde avec tendresse, il y a des moments où il guide le monde avec rigueur, et il y a d'autres moments où c'est quel Shakai, c'est, on explique que Shakai, Shin Dalet Yud, c'est un nom qui fait référence à She'amar le Olamo Dai. C'est-à-dire, ça en fait référence à ce qu'au moment de, où Hachem a créé le monde, ben, il y a une espèce de monde qui, on pourrait se représenter comme en expansion, si vous voulez, et à un moment donné, Hachem a dit, ça suffit. Ça suffit, ça veut dire, il y a assez de richesses dans le monde, assez de. Pour pouvoir fabriquer dans ce monde toutes les situations dont Hachem veut qu'elles existent pour que les Bnei Israël et le reste de l'humanité soient confrontés à ces situations-là. Quelque part, on a donc une densité suffisante de situations possibles dans le monde pour que le projet divin puisse se réaliser. Donc Hachem dit, voilà, alors si vous voulez, dans ce Kel Shaka, il parle du projet divin, donc des promesses, de ce qu'on peut appeler les promesses divines qui nous indiquent un peu quels sont les projets divins, parler comme ça. Alors Hachem dit à Moshe, il dit, les Oavot, je me suis montré seulement avec mon nom Kel Shaka. Ça veut dire que les Avot n'ont entendu de moi, ils n'ont connu de moi que des promesses. J'ai fait des promesses, ils n'ont jamais vu le début de la réalisation des promesses. Et pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Il dit parce que, par opposition à toi, mon cher, toi pourtant je t'ai dit qu'on entrait maintenant dans la phase de réalisation des promesses. Et parce que les choses ne se sont pas déroulées comme toi, tu pensais qu'elles devaient se dérouler, alors tu me fais ce procès d'intention, là, de pourquoi tu fais du mal au peuple, pourquoi tu m'as envoyé, etc. Et mon cher Rabbeinu va être sanctionné immédiatement. Déjà, depuis ce moment-là, Hachem a décidé que mon cher Rabbeinu n'entrerait pas en Eretz Israël. Ça veut dire que Moshe sait que le projet d'Hachem, c'est d'amener le peuple en Eretz Israël. Moshe sait que Hachem l'a désigné pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, pour les conduire jusqu'en Eretz Israël, mais qu'il n'entrera pas en Eretz Israël. Quelque part, c'est la frustration. Avant de commencer, il est tout de suite frustré de. Enfin, ça ne marchera pas, quoi. Toi, tu n'entreras pas.
C'est le cas.
Il lui a dit, Hachem lui a dit. Hachem l'a puni.
Et alors?
Et seulement, mon cher Rabbeinu va penser, au fur et à mesure, que comme Akadosh Baruch Hu a pardonné souvent, il a pensé que peut-être Hachem lui a pardonné à lui aussi. Et ce n'est pas le cas.
De quel chacun marque la fin de l'expansion qui coïncide avec les promesses.
Kel Shakai, c'est l'idée que le monde est assez riche. C'est-à-dire, c'est comme si on disait, voilà, tous les projets sont potentiellement là dans ce monde-là. Donc, dans les projets divins, il y a d'amener le monde à un certain terme. Et amener le monde à un certain terme, ça veut dire, ça se traduit pour les Bnei Israël, arriver à Mashiach, si on veut, au temps messianique, et puis ensuite. Amener le monde dans l'amabar. Et donc, ce nom, mon nom tétragramme, donc celui qui réalise les promesses, Ce nom-là, sous ce nom-là, ils ne m'ont pas connu du tout. Et j'ai fait aussi avec eux une alliance. Je leur ai dit que je leur donnais le Eretz Kenan, la terre d'Israël, donc je leur donne à eux cette terre où ils ont habité. Et voilà. Et ensuite, ça c'est ce que j'ai dit au Avot. Et maintenant, concernant la situation actuelle, Gamani shamati et nakat bnei Israël, Hashem Israël m'a avidi motam. Et donc, j'ai entendu les plaintes des bnei Israël que les Égyptiens réduisent en esclavage. Vaezkor et briti. Et je me suis souvenu donc de mon alliance. C'est-à-dire, dans cette alliance, il y a que je dois les sortir d'Égypte. La reine, pour cette raison, est mort, l'Ibn Israël, Ani Hachem. Cette raison, toi, Moshe, va dire au Ibn Israël que Ani Hachem, donc je suis Hachem, que voilà, je me conduis maintenant avec eux selon la tendresse. Veotseti etrem. Et tu parleras en mon nom. Tu diras Veotseti etrem, itachat siblot Mitzrayim. Je vous sortirai des souffrances de l'Égypte. L'Égypte, donc, vous impose. Vitsalti etrem, je vous sauverai de votre esclavage. Vegalti etrem, et je vous libérerai, Bizroan et Touya, avec un bras puissant et un bras étendu, ou Bishmatim Gdolim, avec de grands jugements. Vilakarti etrem li le'am, et je vous prendrai pour moi comme peuple. Vous allez devenir mon peuple, Vehaiti lachem l'Elohim, et je serai votre Dieu, Vidatem, ki ani Hashem Elokechem, et vous saurez que je suis Hashem votre Dieu, Hamotzi etrem mitachat siblot Mitzrayim, qui vous sort des souffrances que les Égyptiens vous imposent. Veveti etrem el haaretz asher nasati et yadi, et je vous amènerai vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je vous le donnerai en héritage, Ani Hashem. Et donc Moshe a dit au Bnei Israël ce qu'Hashem lui avait dit de dire, donc il leur a fait ce discours-là qu'on vient de dire, de lire. Veloshamu el Moshe. Mais les Bnei Israël n'ont pas entendu, n'ont pas été capables d'entendre ce que disait Moshe, parce que les kotzer ruach umei avoda kasha, parce qu'ils avaient le souffle court, et aussi parce que les travaux qu'ils devaient faire en tant qu'esclaves, des travaux extrêmement, beaucoup trop difficiles à supporter. Ils n'avaient pas d'oreilles, quoi. Ils pouvaient pas entendre, ils n'ont pas été capables d'entendre ce que Moshe leur disait. Alors, sur ces noms divins. Je reprends. Vaïdaber, Elohim el Moshe, Vayomer Elav, Ani Hashem. Alors, la première fois que Rashi explique, qu'est-ce que ça veut dire quand Elohim dit à Moshe, Ani Hashem. Alors Rashi dit que ça veut dire Neman shalem sachar tov lamitalchim lefanai. Je suis fiable. On peut me faire confiance. Je récompenserai bien, donnerai un bon salaire, si vous voulez, ceux qui marchent devant moi, littéralement. Dans le Maharal, dans Gouarier, il dit deux choses. Il dit Oulaï bederer pashtut. On peut comprendre qu'Hachem hu mida shelit galut. Il dit que peut-être il faut entendre que le tétragramme Yud-Ké Vav-Ké, donc, c'est une mida, donc c'est ce qu'on appelle les noms divins, quoi, qui indique le dévoilement d'Hachem. Et Sra Re'onesh est le salaire, positif ou négatif, donc la récompense ou enfin le salaire ou la sanction, c'est un dévoilement de la Mida qui éloigne ou qui rapproche selon les actions, selon la façon dont les gens se comportent. Alors, il y a une Mida qui les rapproche ou qui les éloigne d'Hachem. Ça veut dire, selon comment vous allez vous comporter, vous vous trouverez proche d'Hachem. Proche d'Hachem, ça veut dire vous allez pouvoir bénéficier plus fortement des bontés d'Hachem. Ou bien alors vous allez vous trouver éloigné d'Hachem, effectivement, ou bien vous allez être sanctionné pour retrouver une position plus proche, ou bien vous allez simplement être éloigné, donc vous n'allez pas bénéficier de toutes les bontés d'Hachem. Et dans le passouk, Vayomer Elav Ani Hachem, donc, Rashi, et on peut aussi dire la chose de la manière suivante. C'est que vous vous souvenez que quand Moshe va demander à Hachem quel nom il faut qu'il donne si les Bnei Israël lui demandent, mais qu'il t'envoie. Alors, Hachem, finalement, il lui a dit, tu diras, Eke, je serai, enfin, ça veut dire. Ça veut dire, je serai, ça veut dire, je serai avec vous. C'est-à-dire, annoncer que je vais avoir une relation avec vous. Hachem annonce qu'il n'est pas une divinité qui est dans les hauteurs et qui s'occupe pas des gens, mais qu'il va avoir une relation particulière avec les Bnei Israël. Et toute action que les hommes vont faire va s'inscrire dans la relation entre Hachem et les Bnei Israël. Et les actions, elles doivent être lues avec comme grille de lecture. Est-ce que ça rapproche ou est-ce que ça éloigne? Alors, comment est-ce qu'on saura si telle action rapproche ou éloigne? Selon qu'on aura un salaire positif, donc, ou bien une sanction.
J'ai l'impression que ça rapproche. Même si c'est une sanction, du fait que ça revient encore dans la relation.
Oui, c'est ça. C'est toujours dans la tout. C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'on a l'impression. C'est vraiment comme ça. Hachem dit, La sanction, c'est, je l'ai dit déjà dans l'autre, dans les Shiurim sur Ishmaël et Esav, la sanction, c'est une façon de payer en quelque sorte pour retrouver une position plus proche d'Hachem. On avait dit que si la sanction ne donne pas cela, alors on ne donne pas la sanction. Vous avez apporté comme exemple que la Gemara demande, étant donné que si quelqu'un tue, après avoir été averti par deux témoins, etc., alors là, il est passible de mort. Et si quelqu'un tue par inadvertance, il est passible d'exil, de galoute. Il va dans une ville refuge. Alors, la Gemara, elle se demande, qu'est-ce qu'on va faire? Si quelqu'un, supposé que A a tué B, et les témoins du meurtre, c'est Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen. Donc, on n'a aucun doute que A a vraiment tué B. Mais aucun tribunal ne pourra juger A, parce que Moshe et Aaron sont frères. Et une paire de témoins qui sont frères, qui sont en famille l'un avec l'autre, cette paire n'est pas reçue comme, n'est pas acceptée comme témoin. Donc celui qui a, ce A qui a tué B devant Moshe et Aaron, il ne sera pas passible de mort par un tribunal. Mais on. Alors la Gemara demande, on pourrait peut-être l'envoyer en galoute alors. Alors la Gemara dit non. Pourquoi? Mais parce que la galoute, c'est la sanction adéquate pour quelqu'un qui a tué par inadvertance. Mais quelqu'un qui a tué volontairement, cette sanction, elle ne sera jamais suffisante. Ça ne va pas rétablir cette personne dans une proximité avec Hachem. Il est tellement éloigné que le galout ne peut pas le rétablir. Et par conséquent, si la sanction ne produit pas l'effet, je remets la personne en place, on ne donnera jamais cette sanction. Ce ne serait pas juste. Il ne s'agit pas de punir pour faire mal. La punition, elle est seulement acceptable, elle est même souhaitée, en fait. Quand on y réfléchit, elle est même souhaitable parce qu'elle va permettre de rétablir la relation. Alors que si, effectivement, le grand problème, c'est quel va donc être le statut de ce A qui a tué B de façon certaine, mais qui n'est pas sanctionné du tout dans ce monde-ci. Alors, enfin, il peut être sanctionné, mais ça veut dire que quelque part, c'est Hachem qui doit s'en occuper. Alors, dans la Torah, on voit que quand Hachem doit s'occuper, ça va moins bien, c'est moins bien pour la personne. Hachem est plus sévère que le tribunal. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Alors?
C'est pour ça qu'il tombe du toit. Tout seul.
C'est pour ça que.
Il tombe du toit.
Ah, peut-être, oui. C'est même pas sûr, même pas sûr. Hein. Mais effectivement, une des façons pour Hachem de régler le problème, c'est qu'il va arriver un accident qui va le tuer de la façon dont un tribunal aurait pu le tuer si on avait eu un témoignage acceptable. Bon, alors il y aura il va mourir d'une certaine manière, éventuellement. C'est la Gemara, elle dit qu'effectivement, ce mode-là de gestion du monde existe. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est que ce qu'Hachem dit, ce qu'on a vu ici, que ça dépend des maasim, ça veut dire que les actions de l'homme ont un impact. Elles ont un impact sur la relation avec Hachem. Alors, quand Hachem a dit que pour Avraham, Yitzhak et Yaakov, Hachem s'est présenté avec ce nom, il s'est fait connaître à eux par ce nom de El Shaddai, là Rashi dit, Ani hu sheyesh dai be'elokuti lechol b'riyah. Je suis celui dont la divinité est suffisante pour toutes les créatures. C'est-à-dire, en fait, toutes les créatures peuvent me reconnaître. C'est pour ça que C'est pour ça qu'il faut marcher devant Hachem. Hachem dit, si tu marches devant moi, alors je serai ton Dieu, en fait. Je serai ton protecteur, en fait. Marcher devant Hachem, ça veut dire servir Hachem. Oui, mais est-ce qu'Hachem n'a pas accepté, si on peut parler comme ça, de la part de Moshe, c'est que Moshe fait cette pitié qu'il aurait dû, à la limite, il aurait pu demander comment ça se fait que tu n'as pas immédiatement sanctionné Paro. Mais en vérité, Moshe savait très bien que Paro allait résister. Hachem lui a dit, je t'envoie vers chez Paro et Paro, il ne sera pas d'accord. Il va s'endurcir et il refusera. Donc ça, ce n'est pas la nouveauté. Que Paro refuse, ça ne dérange pas en vérité Moshe, il le sait. Par contre, que ça fasse mal au peuple, ça, visiblement, Moshe ne le supporte pas.
Servir Hachem à ce moment-là, c'est pas marcher
Oui, ben c'est servir Hachem, ça veut dire ici comprendre qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Effectivement, il se passe quelque chose que toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi, effectivement, il faut en passer par cette souffrance. C'est insupportable, la souffrance. Quelque part, c'est comme si on disait à Hachem, bah, écoute, ton monde, il n'est pas parfait parce qu'il y a quand même trop de souffrance dans le monde. Et donc, servir vraiment Hachem, c'est accepter cette souffrance, c'est-à-dire pas du tout penser que ça ne me fait rien du tout, non, ça me fait souffrir. Mais visiblement, cette souffrance, elle a un sens. Mais même si je ne le connais pas, ce sens, mais Si vous voulez, la pétition de principe, c'est ce qu'Hachem fait, ça a un sens. Et si moi, ça me choque, je pense que c'est normal que ça choque. À quelqu'un qui resterait indifférent à la souffrance, c'est un mot, c'est insupportable. Mais il y a de la souffrance, et donc ce que ça doit induire chez moi, c'est me poser la question, est-ce que je peux aider? Est-ce que je peux porter avec lui la souffrance de l'autre? Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'autre? Moi, j'ai le droit de réduire la souffrance de l'autre, si je le peux. C'est pas que c'est lèse-majesté si le médecin qui va soigner, bon, d'abord, il a une permission d'aller soigner. Mais c'est pas parce que s'il soignait, ce serait une révolte contre Hachem. C'est simplement que s'il soigne, qu'il n'a pas la, qu'il, qu'il est, c'est pas la, il a pas la permission. Attendez, il y a quelqu'un qui cherche la entrée. Simcha. Voilà, l'entrée. Bonsoir. Et donc, c'est pas que il ferait quelque chose contre Hachem, c'est que si on enlève, si je considère que la maladie dont on parle, c'est un message d'Hachem, et si le médecin vient et il efface le message, alors ça c'est pas bien. Il faudrait peut-être, normalement, qu'est-ce qui devrait se passer? Si j'ai entendu le message, on peut l'effacer maintenant. Le but, c'était que j'entende le message, donc on peut l'effacer, donc Hachem peut arrêter de... Alors, exactement pourquoi est-ce qu'Hachem a permis au médecin de soigner? Peut-être, justement, avec la conscience qu'il a que je ne suis pas en train d'effacer le message. Je fais ce que je peux pour adoucir, mais je ne veux pas du tout effacer le message. L'autre, il doit entendre le message quand même. Alors, en vérité, ce que je vous ai dit là, ça c'est Rashi, mais le Rambam, il n'est pas vraiment d'accord. Le Ramban, il commence par citer Rabbi Avraham Ibn Ezra, et il dit Avraham, Piresh, quel Shakai, il faut l'entendre de la manière suivante. Je me suis dévoilé à Avraham Yitzhak Yaakov par. Avec le nom qu'El Shakai, Shmi Hashem Lo Nodati Lahem. Alors il dit, Nireh la Avot, Bashem Azeh, Sheu Menatzeach Maarachot Shamaim, Velaasot Imam Nisim Gdolim, Shelo Nitbatel Mehem Minaga Olam. Ve'Ra'av Pada Otam Mimavet, Minchama, Mider Cherev. לתת להם עושר וכבוד וכל טובה. והם, בכל היהודים שבתורה, בברכות ובקללות, ככל היהודים שבתורה, בברכות וקללות, כי לא תבוא על האדם טובה בשכר מצווה או רעה בעונש עבירה, רק במעשה הנס. אבל שכר כל התורה ועונשה בעולם הזה, הכל ניסים והם נסתרים. זה ייחשב בהם לרואים שהוא מנהגו של העולם, Wenn bei Adam onesh usra bemet, c'est-à-dire, bien qu'en vérité, le salaire, le vrai salaire des mitzvot, on ne le touche que, on ne le reçoit que dans Olam Haba. Mais finalement, dans Olam Hazeh, il y a une façon de gouverner le monde qui se traduit que par le fait que Yesh la Adam Olam Haba Olo, c'est-à-dire il aura ou il n'aura pas Olam Haba. Donc quand Hachem donne aux Rechaïm, ben, il leur paye les mitzvot qu'ils ont faites dans ce monde-ci. Et ça, c'est, mais sous forme d'un. Lui, le Ramban dit ça, c'est un Nes Nistar. C'est un miracle caché, en fait. Un miracle qui n'est pas son nom. Vraiment, chez Adam, Ochel Perotem, chez la mitzvot, Ben Adam Lachavero, par exemple, dans Olam Hazeh, ça aussi, c'est un Nes Nistar. Et pour cette raison-là, la Torah, elle va parler effectivement de ce qui se passe dans Olam Hazeh. Elle ne nous dit rien de ce qui va se passer pour la Neshama dans le monde des Neshamot, dans le monde des âmes. Parce que ça, c'est quelque chose qui est complètement surnaturel. L'âme va durer, elle va se rapprocher d'Elohim. Tout ça, c'est des choses que nous, on ne connaît pas du tout. Alors le Ramban continue et il dit, Amara Elohim le Moshe, Elohim a dit à Moshe, Nirait-il à Avot? Le koach yadi asher ani shoded bo amazalot. C'est-à-dire, je me suis manifesté au Havot et ils ont vu que je maîtrisais complètement le monde. Je fais des miracles. Et que j'aide ceux que j'ai choisi d'aider. Mais mon nom, tétragramme, qui est le nom avec lequel, qui fait que toute chose existe, ce nom-là, je ne me suis pas fait connaître, donc ils ne le connaissent pas du tout, sous forme de changement, dans le fonctionnement du monde. C'est pour ça que va dire au Bnei Israël, Ani Hachem. Tu leur diras, Am Acheret Hachem Agadol, Ibo Ani Osei Maem Leafli. Tu vas leur redire ce grand nom avec lequel je vais faire des choses absolument extraordinaires. Veyedou ki ani Hachem osekol. Et ils sauront que c'est moi, Hachem, c'est moi qui fais tout ça. Ils sauront que, c'est-à-dire que maintenant commence une nouvelle époque avec des miracles visibles. Les lois de la nature vont être mises entre parenthèses. Le bâton va devenir serpent. Le serpent va redevenir bâton. Les lois de la nature vont être, ils ont mises de côté. Donc tous les miracles que Hachem a fait à Paro. De toute façon, à chaque fois, c'est des miracles, ce qu'on appelle Nissim Glouim, des miracles visibles. Et donc, ils vont contre les lois de la nature. Et ça commence maintenant à l'époque de Moshe. Moshe, lui, il n'a pas vécu la période du Kel Shakai. Lui, Moshe, il vit entièrement avec la période où la Hanaga, la façon de gouverner le monde, c'est selon le tétragramme. Alors le Ramban dit, donc tout ce qu'a dit Rabbi Abraham Ibn Ezra, donc, sur ce sujet-là, c'est vrai, mais lui, il ne sait pas combien c'est vrai. Il est mitnavé et enoyodéa. Il prophétise, c'est-à-dire il dit les vérités, mais il ne sait pas. Il veut dire, Rabbi Abraham Ibn Ezra n'était pas un kabbaliste. Et malgré tout, par son raisonnement, pardon? Oui. Il n'explique pas les choses à partir de la Kabbale, il ne connaissait pas la Kabbale. Et malgré tout, ce qu'il a compris par lui-même, c'est la vérité. Mais le fondement des choses, il ne pouvait pas le connaître puisqu'il ne connaissait pas la Kabbale. Au point qu'il l'appelle Mitnavé Venoyodea. Il prophétise, mais il ne sait pas qu'il prophétise. Et alors le Ramban dit, Valderech Haemet, et maintenant d'après la Kabbale, le Ramban c'est un Kabbaliste, oui. Alors il dit, Va Katouv Kipshuto Kmashmao. Il faut prendre le passage quasiment à la lettre. Yomar, Ani Hashem, Nireti Lahem, Je me suis donné à voir pour eux, par eux, avec sous la forme, enfin, avec l'éclairage ou avec la signification Kel Shakai, c'est-à-dire justement comme de marée Elav et Vada. Je me suis donné à voir. Veoti, mais moi, Ani Hashem, l'on nodatilaen. Shelon istaklu be'aspaklaria ameira shiyaduoti. Mais ils ne me connaissaient pas vraiment. Asher yadao Hashem, panim el panim, ça a été dit seulement sur Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire ici, le Ramban, il dit que la connaissance d'Hashem des Avot, elle était inférieure à la connaissance d'Hachem d'Abraham Avinu, de Moshe Rabbeinu. J'ai dit Abraham au lieu de dire Moshe. C'est Moshe. C'est-à-dire la connaissance d'Hachem ou le dévoilement de la présence divine pour les Avot, c'était une vision. Vaera. Je me suis donné à voir. Et chez Moshe, Yadao Hachem Panim El Panim. Chez Moshe, pour Moshe, c'était une connaissance. Claire. Pas d'énigmes, pas des trucs, on comprend pas. On voit, mais on ne sait pas ce qu'on voit. Non, enfin, le Ramban, il dit que lui, Rabbi Avraham Ibn Ezra, il a compris ce qui se passait. Mais il aurait pu accéder à ça par la cabale, mais il l'a fait par son raisonnement. Mais il a compris que Moshe voyait mieux, enfin, c'est pas qu'il voyait mieux, il voyait autrement, il savait, la connaissance que c'est une connaissance claire, la connaissance par la vue, que tu vois les choses, mais tu peux très bien pas du tout ne pas les comprendre. Moshe, il comprenait. Oui, voyez, lui, il a assisté, lui, compréhension de. Ramban dit, Veine Ainyan, Sheavot Haya Giluyashkinalaem, Vadiburimahem, Veminatadin, Rafa, c'est-à-dire, vous savez, on dit sur Rosh Hashanah que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est un din caché, et le deuxième, c'est un din rafa. C'est-à-dire, plus cool, plus léger. Donc, les avot, ils ont vécu avec une minatadine, mais une minatadine douce, adoucie en quelque sorte. Mais avec Moshe, la façon de se conduire, c'était Ivada de Midat HaRachamim, Shehu Bishmo Agadol. Moshe, il a accédé à une, enfin, il a vécu une façon de gouverner le monde selon le tétragramme, c'est-à-dire selon la mesure de tendresse. Tout à coup, Hachem fait des choses pour les Bnei Israël par tendresse. Tendresse, ça veut dire que on leur fait des choses bien qu'ils ne le méritent pas du tout. Oui, enfin, il ne le mérite pas. Le Midatadine, normalement, c'est seulement si tu mérites. Alors, on peut être un peu plus doux, quoi, mais c'est Midatadine. Mais chez Moshe Rabbeinu, c'est Rachamim. Donc, c'est le reproche qui est fait ici par Hachem à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire les avot, qui n'avaient pas ton degré de prophétie, qui ne m'ont connu que sous forme de Kel Shakai, eux, ils ont eu confiance en moi. Et à toi, je me dévoile avec mon grand nom, avec toute la tendresse, et tu me crois, tu me fais pas confiance, quoi. Alors, oui.
La réaction de
Là. Oui, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que Moshe Rabbeinu, il prend le parti du clan Israël. Et il défend le clan Israël. Tu fais souffrir le clan Israël, c'est insupportable.
D'un côté, si mon cher Avenir a été choisi, c'est justement tout ça.
Il a.
Il a été choisi par j'aime justement tout ça.
Oui. À cause de sa sensibilité. Hachem lui reproche pas du tout d'être sensible à la souffrance du clan Israël. Hachem lui reproche, c'est de ne pas avoir fait confiance à Hachem que cette souffrance-là, elle a un sens. On peut dire, c'est, je supporte pas la souffrance, mais je sais qu'elle a un sens. Au lieu de dire, ça marche pas, tu ne l'as pas sauvé. Tu m'as envoyé, pourquoi tu m'envoies? Je n'étais pas parti pour, je veux pas être l'instrument de l'aggravation de la situation pour les Bnei Israël. Et donc, comme vous dites, il a été choisi. À la limite, s'il était quelqu'un qui est insensible, alors ok, d'accord, je suis intervenu, ben, ça va marcher. Je comprends pas, ça va marcher, mais ça va marcher, ok. On passera au chapitre suivant, quoi. Non. C'est normal que Moshe Rabbeinu ne supporte pas. Le problème, c'est les conclusions qu'il en tire, c'est-à-dire la façon dont il continue sa relation avec Hachem à partir de là. C'est ça qu'Hachem lui reproche. Il dit, les Avot, ils m'ont fait confiance. Pourtant, ils avaient toutes sortes de raisons de ne pas me faire confiance. Parce qu'ils n'ont jamais vu le commencement de la réalisation. Et moi, je t'ai dit exactement tout ce qui allait se passer. Je t'ai dit qu'on était dans la phase, j'étais dans la phase de réalisation des promesses. Alors, simplement, penser que tu ne supportes pas que ça se passe de cette manière-là, qui tu es finalement pour pouvoir juger si c'est comme ça que ça va se faire. On n'est pas, je veux dire. Bon, c'est ça le reproche qui est fait à Moshe Rabbeinu. Le reproche, c'est à la limite, la sanction. Tu n'entreras pas en Eretz Israël, ça veut dire ça va pas jusqu'au bout. Avec ta prophétie, elle est plus grande que celle des Avot, mais t'es pas allé jusqu'au bout de ce que je t'ai dévoilé, en fait. Alors, la reine, ce verset-là qu'on a lu, Hachem a dit, est mort l'Ibné Israël. Il y a toute la, c'est tout le déroulé de la Géoula, du processus de Géoula. Et ça culmine par, de la carte Tremli Léam, avec la Lélokim. Bon, je vais vous sortir et vers quoi on va? Vous allez devenir mon peuple. Et moi, j'aurai cette relation avec vous, je serai votre Dieu. Alors, il y a un cinquième, il y a quatre étapes, mais il y a bien la cinquième. Un cinquième, c'est Eretz Israël, Vevetietrem El Haaretz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je serai Haïti Lachem l'Elohim. Je serai pour vous. Normalement, on aurait dû dire Haïti Lachem Elohim, non? Tiouli Am. C'est-à-dire comme si le Lamed, ici, le Am et l'Hachem, l'Elohim. Alors, Elohim, c'est le nom divin qui est utilisé pour la Hashgaha Pratit, pour la providence personnelle. Donc, Akadosh Baruch Hu gouverne le clan d'Israël spécifiquement, s'occupe de chacun en particulier aussi. Ça, je serai pour vous l'Elohim, c'est ça. Bon, on a l'habitude de dire que ces quatre expressions qui sont utilisées pour décrire la Géoula, avant la cinquième donc, Vehotseti, Vitsalti, Vegaalti, Velakarti, ces quatre expressions-là, très connues, on dit que les quatre coupes de vin qu'on boit le soir du Seder, elles correspondent à ces quatre expressions-là. En vérité, cette explication-là, elle n'existe pas dans le Talmud Bavli. Ça existe seulement dans le Yerushalmi. Dans le Bavli, c'est autre chose. Dans le Bavli, les quatre coupes, simplement, c'est qu'il y a quatre moments dans la soirée de Pessah. Et on boit une coupe de vin en l'honneur de chacun de ces moments. Alors le Meshech Chochma, il explique ça, enfin il explique longuement. Il dit, la première coupe, c'est le Kiddush. Et pourquoi est-ce qu'on boit du vin au Kiddush? Le Kiddush, c'est pas le boire de vin. Le kiddush, c'est Israël Mekadshim Zmanim. Le Shabbat, le kiddush, c'est Mekadesh Hashem et Mekadesh HaShabbat. La bracha de Borei Pri Hagafen qu'on fait avant le kiddush, c'est en l'honneur du kiddush, on boit pour donner un peu un côté plus festif, plus joyeux. On profite de boire, enfin de boire une coupe avant le kiddush. Si vous voulez, de la même manière qu'on boit du vin sous la choupa. Ça n'a rien à voir avec le borei pri hagafen qu'on fait sous la choupa. Ça n'a strictement rien à voir avec la mitzvah de Kiddushin. En fait, si quelqu'un donne des Kiddushin à une femme sans qu'on ait dit borei pri hagafen avant, elle est beaucoup d'échec. Il lui manque rien. Il manque rien. C'est en l'honneur de. Dans la Havdalah aussi, c'est la même chose. Le Borei Pri Hagafen, il ne fait pas partie de la Havdalah. En l'honneur de la Havdalah, on prend d'abord une coupe de vin. Alors le Meshech Chochma, il dit, comme c'est marqué à Chodesh Hazeh Lachem, et alors la Gemara dans le Rishon dit que Shem, que Shem Kedoshim, et c'est marqué Kedoshim Tiyu, c'est par rapport à Rayot, Shebechol Makom Shatamotse Rashi dit Geder Shel Geder Erva Atamotse Kedusha, et quand les Bnei Israël sont à un degré de Kedusha par rapport au Rayot, c'est-à-dire ils se gardent de transgresser les interdits du type inceste. Alors, ils sont gdolim imalacha charet. Ils sont plus grands que les anges de service. Parce que c'est marqué doublement, c'est marqué it kadishtem Vitem Kedoshim. Vous sanctifierez et vous serez Kadosh. Aïnou Shehem Mekachim et Tazman. C'est-à-dire que les Bnei Israël sanctifient le temps. Et Velachen, pour cette raison, Kshayouk Durim Minarayot Bemitzrayim. Et donc, comme une des qualités qu'on a attribué au Bnei Israël en Égypte, c'est qu'ils étaient gdourim barayot, c'est qu'ils ne se sont pas laissés entraîner à un irrespect des relations incestueuses comme c'était monnaie courante en Égypte, dans ce domaine-là, ils ont résisté. C'est pour ça que la Itachen Veotseti, je vous sortirai en fait, Sheim Loken, Echyachol Leotzi, Bnei Nochit Kmota, ou comme au Bait Sheni, Nikraim Kdoshim, Mekatshe Azmanim. C'est-à-dire qu'en fait, si les Bnei Israël s'étaient laissés aller dans le domaine des Arayot, alors il n'y avait personne à sortir, parce que pourquoi on sortirait des enfants qui sont les enfants d'Égyptiens, les enfants d'Égyptiennes? Donc ça, c'est le Vehotseti. Le premier cause, c'est Kdushat Azman, donc la notion de Kdusha, comment elle est exprimée par les Bnei Israël, exprimée par Gdurim Baarayot. Le deuxième terme, Vitsalti, le deuxième cause. Alors il dit, Tachen, Lehatsil, Keshenochi, Rodefotam. Lehatsil, sauver, c'est par exemple quand quelqu'un est poursuivi. Un juif est poursuivi par un goy qui veut le tuer. Et Matsilotam minagoïm. Avalok Mais si les Bnei Israël s'étaient poursuivis les uns les autres, si Shelo Gilou Mistorin Shebahem, Zeromez Alkos Birkat Amazon. Donc ce n'est pas complètement dans l'ordre. Parce que le Veitsalti, ça correspond au troisième cos, celui de Birkat Amazon. Sheikar Amalchinu tu ba mea eder emuna ba ashgacha. Parce que ça correspond au fait que les Bnei Israël ne se sont pas dénoncés, c'est ce que je vous ai dit, sur Datan et Aviram même. Eder, parce qu'en fait, Malchinut, c'est-à-dire la délation, ça vient d'un manque d'émouna. Bon, c'est quelqu'un qui fait comme si il pouvait échapper à Hachem, quoi. C'est-à-dire, Oberchisaron istapkut, et aussi parce que les gens, pourquoi est-ce qu'ils dénonçaient? Pour avoir des avantages. Ubirkat Amazon, ou Shemaamin, Shekolechad Nizon, mais Hachem Itbarach. Le Birkat Amazon, c'est pourquoi sont faits ces brachot, pour bien montrer qu'on sait très bien que chacun est nourri par Hachem. Et aussi qu'on se contente de ce qu'on a. Shemedakdekim alatzmam, parce que les Bnei Israël, en fait, le Birkat Hamazon, normalement, dans la Torah, c'est marqué Ve'achalta, Ve'savata ou Ve'rachta. C'est-à-dire, la bracha, elle est due seulement si on est rassasié. Mais Hachem fait l'éloge des Bnei Israël qui ont accepté de faire le Birkat Hamazon, même si on avait mangé qu'un kezaït, même si on a mangé que la grosseur d'une olive de pain, on fait aussi Birkat Hamazon. Il y a des rabbanan, mais pas Minatora, bien sûr. Mais puisque les Bnei Israël se contentent, c'est-à-dire ils considèrent que on peut déjà, il faut déjà exprimer sa reconnaissance à Hachem qui nourrit le monde entier dès lors qu'on a mangé un kezaït, on n'a pas la Torah ne nous demande de le faire que si on est rassasié, et nous on a fait plus que ça et on remercie Hachem dès lors qu'on a eu un Kézaït. Donc, Vitsalti, c'est-à-dire, je vous sauve. Pourquoi je vous sauve? Parce que vous, en quelque sorte, vous vous sauvez. Parce que vous dites pas de la chonara entre les uns sur les autres, quoi. Par rapport au goyim, hein. Régalti, je vous libérerai, ou chez Eved Ruchoshfela. En fait, dans l'esclavage, il y a une mentalité d'esclave. La mentalité d'esclave, elle est basse. Adki Amru, Chovhu l'Eved chez Yasse Ben Chorin. Au point que nos maîtres ont dit que un esclave, quand on lui propose la liberté, la Gemara, elle considère que c'est pas obligatoirement quelque chose que lui va ressentir comme quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que quand on accède à la liberté, on accède à la responsabilité. Et l'esclave, il a une mentalité sans aucune responsabilité. Donc la liberté pour lui, pour l'esclave, c'est pas évident. Et donc que les Bnei Israël, bien qu'ils aient été réduits en esclavage, n'aient pas adopté une mentalité d'esclave, c'est quelque chose que qu'on dit à leur crédit, en fait. Alors, c'est aussi parce que l'esclave, avec le temps, il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait plus qui sont ses parents. Surtout, souvent, les esclaves ont séparé les familles, quoi. Bon, les enfants, ils ne restaient peut-être pas obligatoirement esclaves de la même personne que leurs parents. Le propriétaire de leurs parents, quand les parents mettent au monde un enfant, esclave, ben ils peuvent très bien le vendre. Donc l'enfant, il connaît pas ses parents, si ça se trouve. Donc il a aucune responsabilité et il sait pas qui il est, en fait. C'est là qu'on voit que les Bnei Israël, ils ont gardé leur nom. Donc, leur nom, ça veut dire ils ont gardé justement leur lien avec leurs ancêtres. Ils ont gardé les noms Rouven, Shimon, etc. Et ça correspond au deuxième vers. Pourquoi? Parce que sur le deuxième vers, on dit la première moitié du Hallel. Et qu'est-ce que c'est la première moitié du Hallel? C'est Betzet Israël, du Mitzrayim. C'est le souvenir du peuple, en fait. Vilakarti etchem li le'am. Je vous prendrai pour moi comme peuple. Zeh shelo shinu et lechonam. La caractéristique d'un peuple, c'est la langue. Chayou, mais c'est aussi l'espoir, l'histoire d'avoir de l'espoir. Chez Mekavim la Geoula, ou l'Oumiout, Atida, et le nationalisme, si on peut parler positivement, mais. Et ça, d'où est-ce qu'ils ont appris ça? Où est-ce qu'ils ont appris, je veux dire, cette idée que il faut espérer la Géoula, qu'il faut viser la construction d'un peuple, etc. Ils ont appris ça de Yosef. C'est que bien que Yosef ait été quelqu'un de très important en Égypte, Il est dit à son sujet que quand il a parlé à ses frères, il a dit, Kipiam daber alechem. C'est lui qui leur a donné le code avec lequel ils allaient sortir d'Égypte. Qu'est-ce que le libérateur devra donner comme code pour qu'on le reconnaisse comme tel? Et ça, c'est la deuxième moitié du Hallel, qui justement parle du peuple qui va exister. C'est ça que c'est marqué dans la deuxième partie du Hallel, qui commence Minametsar, etc. C'est Even Maaso Abonim, Haital Rosh Pina, etc. Vezeh Mechuvan Be'arba Kosot. Tavid Bar Bechol Chada Mitzvah. C'est-à-dire, ça correspond à une mitzvah pour chacun de ces kossot. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça sur le vin? Pourquoi on n'a pas dit ça sur, je ne sais pas, un verre d'autre chose que du vin? Ou autre chose, on aurait pu décider qu'il faut manger, je ne sais pas, une poire ou une framboise, je sais pas, C'est parce qu'en fait, les Bnei Israël ont été libérés grâce au vin, si on peut parler comme ça. Pourquoi? Parce que c'est grâce au vin qu'ils ont montré la différence entre eux et les Égyptiens. Et c'est ce qu'ils vont devoir, les Bnei Israël doivent montrer cette différence dans notre galoute à nous. Comme ça, ils seront libérés. Ça vient. Pas d'impatience. Alors pourquoi c'est le vin? Parce que le vin, il montre tout particulièrement l'Avdala, la différence. Aman, quand il a voulu dire du mal des Bnei Israël, il a dit à Achashverosh, les Juifs, s'il y a une mouche qui tombe dans leur verre, ils enlèvent la mouche et ils boivent le verre. Et si toi, mon roi, touches leur verre, ils versent tout le vin et ensuite ils rincent trois fois le verre. C'est pour ça que on a été gozer. Yain, Mishum Benotehem, on a interdit le vin des goïms pour qu'on puisse pas facilement se marier puisque on pourra pas boire ensemble en fait. Donc les banquets ensemble, et bon, on devrait faire dans des mariages, ben, on pourra pas les faire avec eux puisqu'on pourra pas boire avec eux. Comme dit le Meshech Chochma, Gambeze Kaet Ibadlou, aujourd'hui aussi, grâce à ça, Vigalou Bimera Biyameinu Amen. Voilà, on va s'arrêter là.